Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse. Comme le disait Peter Ustinov, les Français et les Anglais sont de si bons ennemis qu'ils ne peuvent s'empêcher d'être amis. Et en ce 2 juin 2022, j'éprouve de l'amitié pour les Anglais à l'occasion du jubilé de leur monarque, celle qui signe depuis 70 ans chaque document officiel par Elisabeth Regina, la reine Elisabeth II, l'une des meilleures ambassadrices du soft power britannique. La preuve, je vous propose ce matin une émission sur le mode de vie britannique. Le soft power, donc, cette diplomatie de velours, cette manière douce d'influencer qui s'incarne notamment dans la culture et l'art de vivre. Coup de projecteur sur cette anglomanie qui fait du bien à certains et qui passe notamment par la décoration, le jardin, la cuisine, les séries télé, la littérature ou encore la musique british. Comment expliquer ce goût de l'Angleterre? Comment s'inspirer de son art de vivre? Pourquoi leur flegme et leur humour peuvent nous aider à nous tirer de certaines situations? Le flegme anglais est-il d'ailleurs un mythe ou une réalité? Comment mettre une touche anglaise dans nos intérieurs, dans nos assiettes, nos balcons, terrasses et jardins? Pourquoi la cuisine anglaise a-t-elle une si mauvaise réputation? Est-ce encore un cliché de déclarer qu'elle est infâme, pour ne pas dire plus? Nous évoquerons bien d'autres questions en compagnie de nos invités. Êtes-vous séduit par l'art de vivre, le style british? Un peu, beaucoup, alors pas du tout? Standard ouvert au 01 45 24 7000, sans oublier de réagir sur l'appli et sur le site de France Inter. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter, Ali Rebéi, Grand Bien Vous Fasse.
Bonjour Nicolas Sowels.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en civilisation britannique à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne. Bonjour John Henley.
Bonjour.
Vous êtes correspondant Europe pour le quotidien britannique The Guardian et vous êtes basé à Paris. Bonjour Daniel Jerkens.
Bonjour.
Directrice des rédactions de Elle à Table, Elle Décoration et Art et Décoration.
Hein, bravo.
Quel staccanoviste. Bonjour Alain Baraton.
Bonjour.
Jardinier en chef du domaine national de Trianon et du Grand Parc de Versailles. Chroniqueur chaque samedi et chaque dimanche au France Inter. Vous venez de publier Mon Tour de France des bois et forêts. Bonjour Marion Lourd. Bienvenue. Marion Lourd, on l'aura dans quelques instants. Marion Lourd, journaliste et présentatrice à France Inter, ancienne correspondante à Londres pour divers médias. Et bonjour Guillemette Audicino.
Bonjour Ali.
Vous êtes chef de rubrique cinéma Télérama, chroniqueuse dans cette émission et anglophile jusqu'au bout des ongles par goût personnel et également par atavisme. L'anglophilie, je rappelle que c'est la sympathie pour les Anglais et ce qui est anglais. Vous, vous êtes anglophile et c'est une tradition familiale.
Ah oui, absolument, je tiens ça de ma maman. Je vous raconterai peut-être tout à l'heure une anecdote assez incroyable, mais elle a fait ses études à Cambridge et elle m'a transmis un amour immodéré pour l'Angleterre et les Anglais. Et justement, cette manière de vivre et cette manière de regarder le monde par une petite lorgnette flegmatique, car vraiment, je l'atteste, j'ai rencontré des Anglais drôlissimes et flegmatiques.
Et votre mère a étudié à l'université de Cambridge et elle y a rencontré l'archevêque de Canterbury. Elle est devenue son amie. Oui. Et je rappelle qu'après la monarque britannique, c'est le chef de l'Église d'Angleterre et de la communion anglicane.
Hein. Oui, alors absolument. Donc elle a fait ses études en même temps que Robert Runcie, donc l'archevêque de Canterbury, qui a marié Charles et Diana. Donc c'est l'archevêque de Canterbury. Et en fait, ce monsieur, moi j'étais une petite fille, je pense que j'avais à peu près 8 ans, il était encore évêque, il n'était pas encore archevêque. Il est venu à la maison un jour, et on avait un jardin, c'était en été, et vraiment il y avait un soleil très très violent. Et il n'avait, et vous savez, enfin si vous vous souvenez un peu de son allure, c'était vraiment, il était britannique même physiquement, c'est-à-dire il était roux, un teint mais pâle comme tout, une endive quoi, une délicieuse endive mais une endive. Et donc il n'avait pas de chapeau. Et donc moi, petite fille de 8 ans, j'ai trouvé moyen, je suis allée lui chercher un chapeau et je suis allée lui chercher mon chapeau de princesse, de déguisement de princesse, un machin blanc en dentelle avec des rubans roses. Et ça ne l'a absolument pas choqué. Il a mis ça, j'ai une photo qui en atteste. Et quelques temps plus tard, à la télévision, je reconnais ce monsieur et ma maman me dit, tu sais, le monsieur qui était habillé en princesse dans notre jardin, il est en train de marier Charles et Diana. Et en fait, voilà. Et Robert Runcie, pour moi, ça a été cette instantané de folie anglaise, espèce de décontraction. C'est-à-dire, c'était l'un des plus grandes figures de l'Église anglaise. Et quand il était chez des gens, il se comportait avec cette folie, cette extravagance. Plus c'était quelqu'un de très libre. Il était pour le fait que les femmes soient prêtres. Enfin, il était incroyablement aussi moderne. Donc ça a été pratiquement ma première rencontre avec l'Angleterre. Et après, quand j'y suis allée, je n'ai vu que ça, c'est-à-dire de l'extravagance, de la folie, des couleurs, des mélanges de couleurs assez fous d'ailleurs souvent.
Dans parfois les... improbables même.
Mais justement improbables. Et puis maman m'a fait lire Agatha Christie, m'a fait regarder Alec Guinness, m'a fait... Enfin, je suis tombée dedans quand j'étais petite.
Dale Jerkens, vous qui êtes une reine du bon goût, vous êtes également anglophile ?
Alors, anglophile, ma mère a vécu à Londres pendant 2 ans aussi, donc je pense que ça nous a forcément un petit peu influencés. J'aime beaucoup de choses des Anglais, et parfois ils m'agacent. Voilà, je pense que j'ai une relation, je ne suis pas française, mais j'ai une relation assez française. En termes de style, oui, ils sont très étonnants, c'est-à-dire qu'ils ont ils n'ont peur de rien, en fait. En tout cas, ils donnent l'impression de n'avoir peur de rien. Les Français, notamment en décoration, par exemple, c'est très marqué par la symétrie, un minimum d'épure, etc. En Angleterre, on a l'impression que ça, rien de tout ça ne passe dans leur spectre. Et donc, ils osent des mélanges complètement improbables, des couleurs complètement étonnantes, des accumulations de choses. Voilà, en cuisine, c'est très étonnant aussi, c'est très intéressant aussi.
On y reviendra tout à l'heure. John Henley, l'amour entre les Anglais et les Français, c'est un amour un peu vache. Pourtant, l'anglophilie est très présente chez de nombreux Français.
Oui, et l'inverse est vrai aussi.
La preuve est vous.
Voilà, on dit exactement. Moi, j'ai vécu plus ou moins le processus inverse. moi, je suis tombé amoureux de la France à un très jeune âge. Mais non, c'est vrai que ça, c'est deux pays qui se connaissent, on dirait, presque trop bien. C'est ça le problème. On dit souvent que les Français aiment les Anglais parce que justement flegmatique, sens d'humour, excentricité, etc. Ils détestent l'Angleterre parce qu'il pleut, parce qu'on y mange bien, on y mange mal, etc., etc. Et les Anglais, c'est l'inverse. Ils adorent la France parce qu'on y mange très bien, les filles sont jolies, il fait beau, etc. On déteste les Français parce que râleurs, arrogants, etc.
Et Nicolas Sewells, comment expliquer cette anglophilie alors que notre histoire commune est émaillée de guerres, de conflits, de chamailleries, de disputes? Comme le disait Peter Ustinov, les Français et les Anglais sont de si bons ennemis qu'ils ne peuvent s'empêcher d'être amis. Comment vous expliquez cette anglophilie?
Je pense que dans l'histoire, il y a quand même eu le modèle démocratique britannique qui a influencé, semble-t-il, Voltaire et d'autres penseurs
Montesquieu.
Peut-être plus récemment, je pense qu'il y a une diversité de la culture, peut-être en Angleterre aussi, qui attire, notamment en termes de la musique, une diversité de la vie publique, dont on peut peut-être parler tout à l'heure. Et peut-être parce que d'une certaine manière, ils ont l'air d'être très différents, d'apparence en tout cas. Dans France, on parle toujours des Anglais très réservés ou des Britanniques très réservés. Je dois mettre un petit bémol quand même là. Il y a un très très grand pédagogue britannique qui s'appelle Sir Ken Robinson qui a dit il faut pas oublier que c'est le seul peuple qui a envahi tout le monde qu'ils ont rencontré.
Oui, c'est vrai.
C'est pas faux. Donc cette histoire d'être réservé est à double tranchant. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on va voir le défilé militaire, il y a les gardes de la reine, ils sont tout beaux, tout rouges. Ils portent ce chapeau d'ailleurs après la bataille de Waterloo. C'est à ce moment-là que le duc de Wellington a donné la permission aux gardes britanniques de porter un chapeau en fourrure comme la garde impériale française. Mais ce sont les mêmes soldats qui vont à la guerre. C'est-à-dire, ils alternent entre Buckingham Palace et l'Afghanistan. Donc, c'est un peu partagé.
Marion Lourd, on vous a retrouvé.
Oui.
Bonjour
oui,
Marion Lourd. Comment définiriez-vous votre anglophilie? Vous avez vécu quelques années à Londres en tant que correspondante et vous avez publié un livre, My Diary, c'est le journal intime de la reine Elisabeth II, enfin, journal fictif.
On a eu quelques exemples là et c'est aussi ce que j'essaye de montrer dans mon livre en essayant de faire de la souveraine quelqu'un de drôle en fait. Ce qui est chouette et qu'on n'a pas tellement en France dans la société britannique, c'est que c'est cet humour, c'est ce rire et c'est cet humour qui est partout. On s'en aperçoit même en étant correspondante, c'est-à-dire que en contactant des institutions, des administrations, etc., ça passe mieux si on fait une petite blague, ce qui serait pas du tout le cas en France. En France, vous contactez pas un ministère en faisant une blague. Donc là, il y a vraiment quelque chose. Et puis, il y a cette liberté, l'air de ne pas y toucher. En fait, tout le monde garde son quant à soi, a une certaine réserve, etc. Et en même temps, c'est une société, alors peut-être que c'est dû au libéralisme économique, mais c'est une société qui est très libre, où par exemple, on peut faire trois métiers à la fois, on peut être à la fois programmateur informatique, chauffeur Uber et encore autre chose. Et personne ne vous met dans une case. Et je sais pas si c'est lié au libéralisme aussi économique qui est plus fort en Angleterre qu'en France, où il y a un côté plus étatiste, mais en tout cas, il y a cette idée que chacun peut bouger, être quelqu'un et puis quelqu'un d'autre, et puis ça ne dérange personne en fait.
Guillemette Todisino.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec cette notion de il n'y a pas de case. Ça, c'est très vrai parce que et en fait ça revient à cette notion aussi du flegme et tout. C'est-à-dire quelqu'un peut par exemple occuper une place disons très sérieuse dans une boîte ou même une institution ou dans une grande association humanitaire et parallèlement avoir un groupe de rock absolument déjanté, faire du punk à côté, enfin ça n'a pas de, en fait il n'y a pas de préétabli. C'est ça qui est fou.
Il y a un peu moins de jugement, je pense, oui. Les gens, ils portent moins, ou de toute façon moins rapidement,
le jugement
sur les autres, oui. Exactement. Oui.
À l'étranger, il est relativement facile de définir l'art de vivre français basé sur le luxe, le raffinement, la mode et la gastronomie, de façon parfois un peu caricaturale. Un art de vivre national, c'est forcément flirter avec les clichés et la caricature. Mais si vous deviez définir ce qu'est l'art de vivre anglais en quelques mots, John Henley. Je sais que c'est une question très très difficile et que vous allez sans doute sombrer dans la caricature. D'ailleurs, Nicolas Saoulé détourne la tête parce que
je pense récemment, plus récemment, je pense c'est un art de vivre qui s'inspire beaucoup d'un peu partout. Je pense que c'est une société qui on va pas trop parler du Brexit, j'espère, mais je pense que ça va changer grâce à cause du Brexit. Mais je pense que jusqu'ici, certainement depuis la Deuxième Guerre mondiale, la société britannique a été extrêmement ouverte. Voilà, je pense que c'est ça qui surtout conditionne s'il existe un art de vivre, un style de vivre britannique, c'est plutôt ça.
Nicolas Saoulé, vous êtes obligé de répondre, vous pouvez pas détourner la tête. C'est une question très difficile.
Non, mais c'est toujours très difficile de généraliser sur tout un peuple. Il faut pas oublier non plus. Et là, il y a le journal du Guardian hier qui a fait un très long article sur la grande pauvreté qui existe. Et sur les énormes coupes budgétaires pour tout ce qui est aide publique aux personnes. Donc il faut faire un peu attention à ça.
Bien sûr.
Mais juste pour rebondir un peu sur ce que John Henley a dit, c'est vrai que moi je retourne un peu plus souvent récemment en Angleterre pour des raisons familiales et je suis vraiment très frappé par la diversité de la vie publique. Ici, ces derniers jours, on a entendu des choses sur notre nouveau ministre de l'éducation en France, qui sont pas toujours très agréables. Et bon, en Angleterre, il y a non seulement le ministre de l'éducation, et le ministre de la santé, le ministre de l'industrie, le président de la COP 21, le ministre des finances, et last but not least, la ministre de l'intérieur, qui sont tous, d'une manière ou d'une autre, issus de l'immigration. Ce qui n'empêche pas le ministre de l'intérieur d'être extrêmement, strict, je dirais bien plus que ça, son programme de renvoi des réfugiés au Rwanda, c'est encore autre chose.
C'est intéressant ce que vous dites, Nicolas Saoulé, parce que tout ça, ça change l'idée que l'on se fait de l'art de vivre anglais ou britannique.
C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'il y a quand même peut-être une certaine acceptation de l'autre et il y a aussi, je pense qu'aussi, par rapport à ce que moi j'ai grandi en Angleterre dans les années 60-70, je pense qu'il y a eu un effort quand même d'intégration. Il y a une politique positive de discrimination positive dans la fonction publique et ça se voit. Et là, ça se voit dans la société civile aussi. Et ça, Bon, de premier abord, quand on regarde ça à la télé, hein, ça change un peu les choses.
Daniel Jerkens.
N'oublions pas que l'Angleterre, le Royaume-Uni, est on va dire une région géographique qui a vécu des mélanges depuis très longtemps. La moitié de la France a appartenu pendant très longtemps à l'Angleterre. Mmh. Pendant très longtemps, on disait que les meilleurs Bordeaux du monde se buvaient à Londres. Mmh. Ensuite, c'est au 15e, 16e siècle que l'Angleterre effectivement, a commencé à sortir de sa réserve pour aller visiter d'assez près beaucoup de pays à travers du monde. Et effectivement, Londres, et ça c'est très étonnant, j'en reviens, Londres est une ville-monde, vraiment. C'est la ville-monde la plus importante, à mon sens peut-être presque plus que New York d'une certaine façon. Et on sent dans le quotidien de cette ville, de manière un petit peu impalpable, ce mélange permanent et tous les apports qui ont irrigué la culture anglaise depuis très longtemps et qui ont totalement été intégrés par les Anglais comme étant anglais. Il semblerait que le plat préféré des Anglais soit le curry. Mmh.
C'est ce que j'allais dire. Ce cliché, comme quoi on mange mal en Angleterre, bah ça dépend ce qu'on mange, parce qu'en fait on mange italien, on mange indien, on mange chinois, on mange vietnamien. Enfin, et pour eux, c'est complètement intégré. C'est-à-dire là aussi, c'est une cuisine totalement mondial. Et donc, l'Angleterre, c'est à la fois du rose bonbon, des épices indiens, dans les couleurs, c'est pareil. En fait, l'Angleterre, c'est un sari, disons.
Marion Lourd, qu'est-ce qui vous a le plus frappé sur l'art de vivre à l'anglaise, hein? Vous étiez basé à Londres quand vous y avez vécu pendant quelques années. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé?
Alors, il y a quand même un côté de savoir faire la fête. Alors, on sait faire la fête aussi en France, mais le vendredi, les Anglais, les Britanniques finissent quand même assez tôt leur après-midi. Mmh. Et puis, tout le monde file au pub avec le patron qui prend un verre avec ses employés. Alors, parfois, ça peut dégénérer un peu, parce que si tout le monde est sous avec le patron, enfin, ça donne quelque chose d'un peu bizarre. Mais en tout cas, il y a une espèce de capacité à faire la fête tous ensemble, y compris de façon parfois bien arrosée, mais à organiser aussi ça au niveau du quartier. C'est cette notion de community qu'on n'a pas beaucoup en France, la communauté du quartier, où on fait des fêtes de quartier, par exemple pour le jubilé là, d'Elisabeth, où il va y avoir 7000 déjeuners organisés dans tout le pays. Et cette notion de, voilà, on fait la fête avec ses voisins, on fait la fête avec la personne d'à côté, on va discuter au pub avec celui qui est accoudé à côté de nous. On a peut-être moins ça en France.
Nicolas Saolé, John Henley, quels sont les clichés qui vous agacent le plus quand on évoque l'art de vivre, le mode de vie des Britanniques? Qu'est-ce qui vous sort par les trous de nez?
C'est problématique cette question parce que c'est toujours avec ces clichés, avec ces idées reçues, il y a toujours une part de vérité. Exactement. Là-dedans. C'est pour ça que ce sont des clichés. Hein, donc vous l'avez bien dit sur le manger. Oui. On dit toujours en France, on mange mal en Angleterre. Ce n'est plus vrai, mais il faut savoir où aller. Il faut pouvoir avoir l'argent. Et ce n'est plus du tout le cas, comme disait. Je pense que c'était Clémenceau qui disait. Quand même, il est. On dit qu'il c'est impossible de bien manger en Angleterre. C'est parfaitement possible. Il suffit juste de prendre 3 fois par jour le petit déjeuner. Ça, c'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Mais ça reste vrai qu'il n'y a pas du tout une vraie culture de la bouffe comme on a en Italie ou en France. Ça n'existe pas encore.
John Henley, le cliché qui vous agace quand on évoque Nicolas, le mode de vie britannique?
Je sais pas en fait. j'évite trop les clichés. Hein. Je sais pas, peut-être. Je sais pas.
Je vais réfléchir pendant le disque. Dans quelques instants, des idées pour transformer son jardin, son balcon, sa terrasse en jardin anglais avec Alain Baraton. Comment décorer son intérieur en s'inspirant des cottages anglais. Et puis vous saurez comment réussir vos scones pour le tea time. Ce sera juste après un pur produit de la pop britannique, les Pet Shop Boys, à 10h24. Souvenez-vous, Guillemette Odissino, cet étudiant anglais à l'été 87.
Ah non. Bon, lui, en revanche, il ne m'oublie pas. I'm
Pet Shop Boys, Always on My Mind.
Vous, les Anglais, vous vous croyez si supérieurs aux autres.
Grand bien vous fasse.
Mais vous êtes la fiente de toute cette planète.
Ali Rébéi.
Une bande de crèves la faim, pompeux, onculeux, malfringués. Vous êtes un tas de hooligans sexuellement sous-développés.
Sur France Inter.
Et ce matin, à l'occasion du jubilé de la reine Elisabeth II, on s'intéresse à l'art de vivre anglais qui peut nous inspirer au quotidien. Êtes-vous séduit par cet art de vivre? Êtes-vous anglophile? 01 45 24 7000, sans oublier de réagir sur l'appli France Inter. Une auditrice nous écrit « J'habite en Grande-Bretagne depuis 30 ans et on vous met immédiatement dans une case dès qu'on vous rencontre. Le système des classes régit tous les niveaux. Si on n'est pas allé à un type d'école ou on ne vient pas d'un certain type de famille, on vous met illico dans une case. » Et on peut oublier la grande tolérance britannique. Qu'est-ce que vous répondez à ça, John Henley? Vous êtes correspondant du quotidien The Guardian.
Je pense que chacun a son expérience. Il est vrai qu'il y a un système de classe qui existe en France. Il est vrai qui existe en Angleterre,
en France,
pardon.
Aussi.
En France aussi, mais en Grande-Bretagne, évidemment, c'est vrai. Il est vrai que les étudiants ou les élèves des écoles privées, des grandes écoles privées, qui s'appellent bizarrement des écoles publiques, public schools en Angleterre, mais les grandes écoles privées, ça représente 7%. De la population britannique, mais si on regarde les juges, les politiques, etc., surtout les premiers ministres, etc., c'est non, évidemment. Mais je pense que au quotidien, je reste convaincu qu'il y a quand même un peu, il y a moins de codes. Il y a moins de codes pour la plupart des Britanniques, je pense, qu'il y en a pour beaucoup de Français.
Comment expliquez-vous que le jubilé de la reine Elisabeth II passionne autant les Français, avec des éditions spéciales sur les grandes chaînes généralistes, sur les chaînes info, à la radio? Comment vous l'expliquez, cet intérêt des Français pour ce jubilé?
Il y a une fascination, une véritable fascination. Évidemment, je pense, il y a peut-être, je ne sais pas si les Français regrettent de plus avoir donné, mais on peut que constater le fait qu'il y a une absence de monarchie en France. Donc, vous êtes peut-être fasciné par ce que vous n'avez pas, mais c'est vrai aussi que c'est une famille assez exceptionnelle. Je veux dire, c'est un anachronisme total. C'est une famille totalement dysfonctionnelle. Donc on vit ça, on a ça dans son quotidien en France et on est fasciné par ça.
Le regard d'Alain Baraton, jardinier en chef du domaine national de Trianon et du Grand Parc de Versailles.
Oui, je crois que les Français aiment beaucoup la reine d'Angleterre car ils sont tout simplement royalistes. Tous les jours, je vois entrer à Versailles des milliers de visiteurs français qui vont non pas découvrir un château ou un musée, mais leur domaine à Versailles. Ils ont un petit peu de nostalgie pour la monarchie et quand ils se dirigent vers le hameau de la reine, ils pensent à la défunte Marie Antoinette et là, il y a même une petite larme qui tombe de l'œil.
Marion Lourd, ancienne correspondante à Londres et journaliste à France Inter.
Ben, je pense aussi que c'est ce qu'on avait dit dans une autre émission avec vous, Ali, et c'est aussi un peu ce que j'ai montré dans mon livre, c'est que je pense que les Français apprécient aussi de la part de la reine cette espèce de flegmatisme, je ne sais pas comment on dit ça, de flegme, pardon. Parce que elle ne montre pas ses émotions de façon disproportionnée comme on peut le faire parfois dans les pays plus latins, et qu'elle a ce côté pierre angulaire du pays et du système, cette stabilité que voilà qu'on ne voit pas forcément en France, avec parfois un peu plus d'émotions affichées de la part parfois de nos dirigeants ou de nos représentants.
Nicolas Sauvel, je rappelle que vous êtes maître de conférences en civilisation britannique à l'université Paris 1. Peut-on dire que la monarque britannique, c'est la meilleure ambassadrice du soft power britannique? Le soft power, c'est cette manière douce d'influence que détiennent les États. Ça passe notamment par la culture, le mode de vie, l'art de vivre. On l'a vu aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale avec l'American Way of Life, le cinéma hollywoodien, le rock, les séries télé. Est-ce que Elisabeth II, c'est la meilleure agente du soft power britannique dans le monde?
Je ne sais pas si c'est la meilleure ambassadrice. C'est certainement un symbole britannique qui est très forte. Hein, donc ça, c'est incontestable. Juste pour rebondir un petit peu ce qui a été dit, je pense qu'en France, en fait, on aime bien les faces du pouvoir. Hein, c'est-à-dire, on regarde les ministres en France, ils sont toujours dans les grands hôtels parisiennes, souvent dans des décors très dorés.
Et ça, je pense que la France, ou le Royaume-Uni, c'est un des rares autres pays en Europe qui a encore ça, quelque part. Il y a une faste publique comme ça, qui en Grande-Bretagne est incarnée bien plus par la royauté que par le Premier ministre, surtout Boris Johnson. mais donc, je pense qu'effectivement, il y a ça. Donc, effectivement, la famille royale, ou plus particulièrement la reine, elle fait partie de ce soft power britannique. Mais je pense qu'il y a plein d'autres choses aussi. On avait parlé un petit peu de Londres comme ville-monde, mais je pense que, justement, le libéralisme économique a fait de Londres une ville très attractive, entre autres pour beaucoup de Français, hein, et beaucoup de financiers français. Il y a le système des universités aussi, hein, qui fonctionne très bien et qui attire beaucoup de gens de partout dans le monde. Alors, encore une fois, les choses vont peut-être bouger un petit peu avec le Brexit, hein. Il ne faut pas trop mettre là-dedans non plus, mais c'est possible.
Guillaume Todicino, journaliste à Télérama, les séries télé, notamment, ont contribué à ce soft power britannique, séries comme Downton Abbey, The Crown, qui ont un retentissement mondial assez incroyable.
Mais c'est fou.
Ça contribue aussi
Oui, ça a vraiment créé une vague de... L'amour pour l'Angleterre et la fascination a toujours été là. De toute façon, la reine d'Angleterre est là depuis tellement longtemps. Mais je pense que vraiment, oui, que ce soit The Crown, évidemment, mais même...
Qui raconte la vie raconte de la monarque.
Qui raconte la vie de la monarque et qui nous a rappelé, parce que ça participe de la fascination quand même, je trouve, c'est quand même l'histoire d'une jeune fille qui hérite d'un trône, alors qu'elle a un âge où nous, nos filles, sont encore en train de se demander si même elles vont passer leur bac, hein, et qui est toujours là, et qui a pris cette responsabilité. Enfin, c'est l'histoire d'une responsabilité gigantesque au départ sur les épaules d'une jeune fille aux yeux myosotis, quoi.
C'est le sens du devoir.
Sens du devoir, mais c'est incroyable.
Elle n'était pas prête à ça du tout. Elle n'était pas programmée pour ça.
Donc, enfin, je pense que quand même, nous Français, ça nous fascine aussi ça, cette trajectoire absolument folle et ce sens du devoir. Donc. La série The Crown nous l'a rappelé.
Downton Abbey.
Et dans The Crown, il y a aussi les turpitudes de cette famille dysfonctionnelle. Et Downton Abbey, alors ça, c'est l'art de vivre à l'anglaise. Alors, effectivement, très hiérarchisé. Alors là, on les voit,
très,
les
castes, hein,
évidemment, on les voit. Mais ce côté à la fois violent et doux, en fait, c'est cette espèce de, vous savez, on appelle ça en Angleterre la décence commune,
comme un décence. C'est George Orwell qui utilisait ce terme.
C'est une manière de vivre avec une tentative de douceur et justement de flegme, les choses les plus violentes et les plus douloureuses. Ça, c'est une leçon aussi.
C'est vrai. Vrai qu'il y a, je pense qu'il y a un civisme.
Oui.
Au quotidien, en Grande-Bretagne, qu'on voit plus rarement en France. Et c'est vrai aussi. Moi, par exemple, quand on était longtemps à Paris et on est rentré vivre 12 ans en Angleterre avec ma femme qui est française. On habitait dans un quartier de Londres où il y avait que des petites rues, mais qui étaient toutes à deux sens. Et ça fonctionnait parce que dès qu'on voyait un conducteur voir un autre arriver dans l'autre sens, on se met sur le côté, on dit allez passer. Et ma femme m'a dit mais ça marcherait jamais en France, ça serait le chaos total. Et il y a ce genre de civisme et il y a aussi un flemme. C'est vrai aussi que les Britanniques supportent. Oui. Je veux dire, supporte des manques dans les services publics, etc., qui provoqueraient des révolutions en France.
Il suffit d'essayer de prendre le bus à Londres. C'est phénoménal. En France, on s'agglutine et on essaye de systématiquement passer devant l'autre. En Angleterre, les gens font la queue et attendent patiemment. Et si jamais vous passez dans la queue, on vous fait comprendre que ça n'est pas prévu.
Le regard de Nicolas Saoulé, vous êtes d'accord avec ça?
Non, juste deux petits trucs, peut-être. Parce que cette histoire de queue, là, il y avait une blague dans le temps que ça venait de la guerre. Et en fait, pour rebondir un peu sur le sens de devoir de la reine, je pense qu'elle était très formée par cette expérience de la guerre et par ses parents. Parce qu'à l'époque, eux, ils ont vraiment montrer l'exemple en termes de devoir, ce qu'il fallait faire. Donc je pense que ça s'est un peu attaché à elle. Je ne sais pas si ça va être transmis aux autres. Juste autre chose par rapport au Downton Abbey. Je sais que c'est une série qui est vraiment très très bien faite. mais c'est une façon quand même très édulcorée de oui. voir l'aristocratie. Et heureusement qu'il y a Ken Loach aussi, hein, parce qu'il n'y a pas que The Crown.
Oui, bien sûr. Non, mais, je pense que Downton Abbey a plus nourri le fantasme. Global, mondial, de ce qu'est l'Angleterre, sachant qu'on parle effectivement d'une toute petite niche et très édulcorée.
Mais je pense que ce n'est pas neutre. Dans la politique britannique, ce n'est pas neutre. Ça explique un peu le comportement très suffisant des gens comme Boris Johnson, les gens qui sont issus des grandes écoles privées, qui étaient au pouvoir, l'arrogance. Je pense que ça joue un peu là-dedans. Ça les reconforte un peu dans leur position sociale.
Et ce soft power, juste très, très, très rapidement, mais le soft power, évidemment, la base de tout ça, c'est la langue.
Bien sûr.
La langue britannique.
Évidemment.
La langue anglaise, pardon. Qui est...
Et Ken Loach? Bien sûr que c'est peut-être la vérité de ce qui se passe en Angleterre, surtout pour les classes moyennes et populaires. Mais quand on regarde le cinéma de Ken Loach, il y a aussi cette forme constante de résilience, de tenir face à l'adversité, de se battre envers et contre tout. Donc, un film comme Raining Stones, il vous pleut des pierres sur la gueule, mais vous continuez à croire qu'il y a quelque chose de possible.
Et du ressort individuel.
C'est la tarte, ça.
Ah non, ça, c'est le poisson. C'est du haddock.
Oh.
Et puis ça?
Ah bah la sauce, c'est une mayonnaise à la menthe.
Oh, c'est bon, la menthe. Attendez. Délicieux. Allez, mange, papa, c'est trop bon. Mange. Allez, bye. Alors ça, c'est le dessert.
Ah non.
Hein?
Non, ça, c'est la viande.
Ah.
Avec la chantilly.
Ah, ça, c'est étonnant. Ah, c'est étonnant. Allez.
Vous aimez la cuisine anglaise?
Oh, I like it. It is delicious.
Thank you. Vous êtes
extrait du film Les Grandes Vacances. Alors, longtemps, la cuisine anglaise a eu mauvaise réputation. C'est Paul Claudel qui disait, devant la cuisine anglaise, il n'y a qu'un mot, soit. Je peux également citer ce proverbe français. La cuisine anglaise, c'est simple. Quand c'est froid, c'est de la bière. Et quand c'est chaud, c'est de la soupe. Et comme le disait si bien un papier de Bérangère Viennot dans Slate, il suffit de taper bouffe anglaise sur Twitter pour se retrouver face à un déferlement de clichés plus ou moins amusants, qui se résume à un consensus quasiment absolu. La nourriture anglaise, c'est dégueulasse. Tiens, Alain Baraton, vous êtes d'accord avec ce cliché?
Je ne voulais pas intervenir tout à l'heure. C'est épouvantable. Comment peut-on oser même parler de gastronomie, de nourriture? Je me demande comment un peuple aussi civilisé peut manger ça depuis aussi longtemps.
Quel provocateur. Vous êtes d'accord avec ça, Marion Lourd?
Eh bien, pas vraiment, en fait. Par exemple, même les fish and chips, qui sont quand même simples et pas trop chers, on peut en trouver des très bons. Je pense que c'est plutôt la structure des repas qui est un peu bizarre pour nous, parce qu'en fait les Anglais n'ont pas vraiment de déjeuner, donc on fait une espèce de casse-croûte au milieu de l'après-midi et tout ça en mangeant des chips. C'est pas de la bonne qualité nutritionnelle, mais par contre on peut trouver des très bonnes choses et aussi de la cuisine du monde, et notamment de l'Inde et de tous les pays du Commonwealth, qui est vraiment vraiment délicieuse pour le coup.
Danette Jerken, c'est un cliché éculé, cette idée que la cuisine anglaise est absolument dégueulasse.
Et alors je reviens de Londres, je dois avouer que les chips, je les ai pas trouvés assez cuits personnellement, j'ai trouvé un petit peu molles. Mais c'est la Belge qui parle. Je pense qu'en fait, la cuisine anglaise, on ne peut pas parler de cuisine anglaise.
C'est ça.
En fait, la cuisine anglaise, ma petite vision, hein, ma petite expérience...
Vous êtes quand même la patronne de La Table. Hein,
oui, bon. certes, mais bon, je ne suis qu'un individu. Je pense qu'on mange extrêmement bien en Angleterre, si on veut manger extrêmement bien et qu'on en a les moyens.
Qu'on en a les moyens.
À Londres, notamment, il y a énormément de restaurants, par exemple, et même dans beaucoup d'autres villes, mais c'est très cher. Beaucoup plus cher que chez nous, proportionnellement. Je pense que l'immense majorité de la population, et notamment la population qui n'est pas très argentée, pour le coup, ne mange pas très bien, voire mange même parfois très mal.
Et je signale d'ailleurs que le taux d'obésité ou de surpoids des adultes de plus de 18 ans était de près de 64% en 2016.
Oui,
c'est l'un des taux les plus élevés en Europe, et nettement plus élevé qu'en France.
Oui, mais parce que je pense qu'il y a beaucoup de nourriture industrielle, il y a beaucoup de fritures, il n'y a pas forcément énormément de légumes,
exactement,
pas énormément de fruits, donc le mix de tout ça est effectivement pas terrible. Donc, il y a vraiment une... En fait, nous, en France, on ne se rend pas compte de la culture générale et de la qualité presque culturelle de la nourriture au quotidien, un petit peu encore partout dans les familles et dans toutes les régions, ce qui n'est pas forcément le cas en Angleterre.
Merci Marion Lourd, hein, je vous laisse filer, vous devez commenter le jubilé sur une chaîne info. Et j'aimerais qu'on... Merci beaucoup Marion. Et j'aimerais qu'on accueille Sarah Le Sage. Bonjour, vous êtes podcasteuse, vous avez créé La Crème Anglaise, consacrée à la cuisine britannique. Quel est votre regard sur ce cliché tenace, sur cette cuisine anglaise réputée pas très bonne?
Bah déjà, merci beaucoup de m'avoir invité. J'ai beaucoup rire à écouter tout le monde. Et justement, j'ai créé ce podcast pour essayer de comprendre pourquoi on a si mauvaise réputation et de défaire un peu de ces clichés. Parce que c'est vrai, quand je suis arrivée, j'ai invité des amis à dîner, bah, on me regardait avec horreur en disant, bah, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle va nous servir, avec de la gélée verte. Et donc, j'ai essayé de comprendre, parce que moi-même, j'étais d'accord. Tous mes amis ont fait des échanges linguistiques et ils sont revenus carrément catastrophés par la cuisine britannique. Et pourtant, c'est plus vrai. Je trouve que la cuisine anglaise, ça existe. C'est peut-être pas gastronomique. Mmh. C'est une cuisine plutôt paysanne, plutôt généreuse, mais qui a été perdue. Bon, Nicolas Sarkozy peut certainement dire plus, mais avec l'industrialisation, où tout le monde a quitté leur paysage pour aller dans les usines, on a énormément perdu. Et puis, bah, on a mis la cuisine française vraiment sur un piédestal. Donc, on essaie d'imiter les Français avec des résultats plus ou moins catastrophiques.
Sarah Le Sage, l'anthropologue Kate Fox compare le rapport des Anglais à l'alimentation, je la cite, à une cohabitation mal à l'aise, indécise et ambivalente. Et l'écrivain gastronomique Paul Richardson d'ajouter notre relation avec ce que nous mangeons est plus ou moins un mariage sans amour. Vous êtes d'accord avec ces deux idées-là?
Je suis plus d'accord, parce que regardez, il y a Jamie Oliver, que vous aimez beaucoup en France, ce chef anglais, qui a un peu réussi à démystifier la cuisine et de nous faire manger mieux. Toutes ces recettes sont simples, sont à portée de tout le monde, avec des bons ingrédients, et je trouve qu'il y a un retour à des ressources qu'on avait perdues. On est des artisans de fromage, de bière, de beaucoup de produits, on se rend compte mieux que c'est important de manger des produits de qualité. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de chefs français qui vont se former à Londres. Et le meilleur chef voté à Paris par le magazine Le Fooding, c'est un Anglais, Daniel Morgan. Mmh. Donc je trouve que cette réputation n'est colle à la peau, mais c'est plus tout à fait vrai.
Le regard de Nicolas Saoulay et John Henley.
Moi, je pense qu'il y a, je constate un petit peu, alors peut-être je me trompe, qu'il y a une certaine américanisation aussi de la société britannique. Et on est un petit peu dans le modèle anglo-saxon, hein, néolibéral. Et je pense que ça recoupe un peu aussi les façons de manger. Hein. Comme vous dites, il y a des très très forts taux d'obésité. C'est vrai que les déjeuners, hein, les gens, ils prennent des sandwichs ou ils prennent des choses qui sont emballées dans les supermarchés et tout ça. Et donc, je pense qu'effectivement, sur la culture gastronomique, je pense en général, c'est vrai que les choses ont changé, mais c'est pas la même chose qu'en France.
Je voulais quand même signaler que, effectivement, Jamie Oliver, l'autrice de La Crème Anglaise le disait, est un chef anglais qui a popularisé la cuisine international en Angleterre et réciproquement. Mais je voulais quand même signaler que le chef aujourd'hui qui agite le monde de la food depuis quelques années. Oui, parce qu'on dit la food, de la cuisine, c'est Yotam Ottolenghi. Oui. Yotam Ottolenghi, qui est un Israélien qui vit à Londres depuis une trentaine d'années, qui est un chef anglais et qui a fait de la cuisine, on va dire, internationale et surtout méditerranéenne, le must absolu.
Sarah Le Sage, j'ai retenu 2 mai à mettre au menu de ce long week-end de Pentecôte, le fish and chips et des scones. Quels sont vos conseils pour les réussir à coup sûr? Le fish and chips qui sera évidemment diététiquement correct s'il est agrémenté d'une bonne salade verte et d'un fruit de saison. Bien évidemment. Alors, donnez-nous votre conseil, Sarah Le Sage.
Pardon.
Votre conseil pour réussir le fish and chips?
Bah déjà, aller manger ça dans un restaurant au bord de la mer, c'est assez compliqué à faire à la maison. D'ailleurs, je l'ai fait pour le mariage de Kate and William, j'avais fait une fête. Ouais. Alors, si vous faites à la maison, c'est mieux d'essayer de faire ça, vous servez au fur et à mesure, vous prenez un peu de papier sulfurisé, vous mettez du papier journal autour, et ça fait l'affaire, même si vous ratez un peu les fish.
Quel est le poisson idéal pour faire un fish and chips?
Franchement, le cabillaud ou la haddock. Parce que c'est des poissons fermes, et vous faites une pâte à la bière. Et c'est délicieux, mais c'est pas facile à réussir, j'avoue.
D'accord. Bon, alors le scone, c'est peut-être plus facile. Vos conseils pour réussir les scones, allez-y.
Alors, les scones, c'est qu'il faut le travailler le moins possible. Mm-hmm. Il faut prendre du beurre très froid, vous travaillez avec vos doigts, avec la farine et le sucre. Mm-hmm. Et vous faites un petit bas beurre, c'est-à-dire le lait que vous tournez avec un peu de citron, parce que ça, avec la levure, va les faire monter et les faire légères.
Donc après, on met du citron dans le lait, du citron dans le lait, et on mélange à la farine, au sucre et au beurre, c'est ça?
Et voilà, il faut vraiment faire rapidement au four, et puis il faut les manger dès qu'ils sortent au four, c'est délicieux.
Et est-ce qu'il faut laisser la pâte reposer ou tout de suite on la met au four?
Pas du tout. Oui, d'accord. C'est vraiment, ça se fait au dernier moment, c'est pour ça on les fait beaucoup en Angleterre, parce que quelqu'un se pointe pour le tea time, vous avez rien, en deux minutes vous avez vos scones. Mais après, le débat, c'est est-ce que vous mettez la confiture d'abord ou le crème?
Grande question, John Henley. Ça serait l'objet d'un dossier dans le Guardian.
Ça a été une cause de guerre entre le Devon et la Cornouaille, cette question.
Amatrice de scone
Amatrice, oui, évidemment. Mais l'histoire de quoi avant quoi, c'est aussi le nuage de lait dans la tasse d'abord ou après le thé.
Absolument.
Ça aussi, ça y a deux clans.
Tiens, à propos du thé, pourquoi est-ce que les Anglais aiment autant le thé, Daniel Jerken?
Ça vient de l'Inde,
ben oui,
je pense, tout simplement.
Mais ce qui est intéressant,
de sortie de réserve. Mais ce qui est intéressant, c'est de se voir qu'ils consommaient beaucoup de thé vert au départ et qu'ils sont passés au thé noir au 19e siècle, parce qu'il y a eu des analyses qui ont été faites et qu'on leur a dit que le thé noir était meilleur. Et souvent, ce sont des thés parfumés aussi, notamment le...
Earl Grey,
avec une pointe de bergamote, qui est très consommée. Et alors, ils ne le font pas comme chez nous.
Ah ben... Et comment le font alors?
Ils chauffent la théière.
Ah oui, bah oui.
Ils chauffent la théière. Ça, c'est indispensable en Angleterre. C'est-à-dire qu'on met d'abord de l'eau bouillante dans la théière, on laisse reposer 2-3 minutes, on vide cette eau, et ensuite seulement, on fait le thé en tant que tel. Et traditionnellement, on mettait one spoon for each, donc une cuillère à café pour chacun. And one for the
surtout,
pot.
Il faut un vrai thé de builder's tea, donc le thé de je sais pas du travailleur. Oui. Il faut beaucoup de lait et suffisamment de sucre pour que la cuillère tienne debout.
Sinon, ce n'est pas buvable.
Alors, juste après le disque, Alain Baraton va nous dire comment transformer sa terrasse, son jardin en jardin anglais. À tout de suite.
Si vite, tout va trop vite, bien trop vite, tout va si vite, pas si vite, tout va trop vite, ralentissons, pas si vite,
Piano va lontano.
Jojoa, lieutenant Nicholson, interprété pas si vite.
Monsieur Bond.
Grand bien vous fasse.
J'arrivais à un moment propice qui coïncide avec le seul apport incontestable de votre pays à la civilisation occidentale.
Ali Rebéi.
5 o'clock tea. Puis-je vous pousser à goûter un sandwich au concombre ?
Sur France Inter.
Et ce matin, à l'occasion du jubilé de la reine Elisabeth II, on s'intéresse à l'art de vivre anglais qui peut nous inspirer au quotidien. Ça inspire Thomas qui nous dit « Je suis anglophile, je ne bois que du thé anglais depuis 2 ans. Une fois goûté, on ne peut plus revenir aux marques françaises. J'aime leur 5 o'clock tea, les crumpets, les Welsh cakes, les scones avec la clotted cream. J'aime leurs pies et leurs infinies sauces. Et ce fameux flegme, je ne sais pas à quel point il est vrai, mais j'ai gardé en moi le flegme de Emma Peel et John Steed. Dans chapeau melon et bottes de cuir.
Bravo.
Je souscris totalement, mon cher Thomas. Alain Baraton, je rappelle que vous êtes jardinier en chef du domaine national de Trianon et du Grand Parc de Versailles. Qu'est-ce qu'un jardin anglais et comment injecter un côté anglais à son balcon, sa terrasse, à son jardin?
Bah, adopter un anglais, ce sera plus facile et plus rapide. Je vais juste te raconter une petite anecdote historique. On ne pourra pas soupçonner les Anglais d'aimer Napoléon. Lors du blocus maritime, les navires britanniques interceptent tous les navires et quand c'est une cargaison à destination de la malmaison des plantes pour l'impératrice, il se contente simplement de rayer le nom à sa majesté l'impératrice, Madame Bonaparte, mais il laisse partir le navire avec les plantes. Comme quoi, ils aiment le jardin. Et les Anglais...
C'est quoi un jardin anglais ?
Le jardin anglais, c'est un jardin qui ne représente pas la nature telle qu'elle est, mais telle que l'Anglais, lui, aimerait qu'elle soit. C'est donc une caricature. C'est un jardin où l'on doit être capable d'y travailler en moyenne 3 à 4 heures par jour, de se pencher sur le gazon avec des ciseaux pour couper le petit pissenlit qui apparaît, faire l'association des plantes les plus rares, les plus belles. On a dit tout à l'heure que les Anglais avaient pratiquement envahi la planète. Ils ont donc réussi le tour de force de faire venir des végétaux de partout et de créer leur propre style de jardin pour pouvoir mettre toutes les plantes.
C'est un style moins sophistiqué que le jardin français, plus naturel, plus sauvage, plus romantique, entre guillemets.
À l'origine, tous les jardins sont réguliers. Quelqu'un disait, pour un jardin anglais, il suffit de saouler son jardinier. C'est pas du tout aussi simple. Non, non. C'est un jardin, il y a une très grande philosophie, une compétence botanique hors du commun. L'anglais sait, quand il est petit, la hauteur des arbres adultes, la couleur des fleurs avant même que les fleurs n'apparaissent. Il y a une culture britannique. Ils savent vraiment ordonné.
Mais à quoi il ressemble pour ceux qui ne le visualisent pas, ce jardin anglais ?
Le jardin anglais, c'est un tableau extérieur. C'est une nouvelle pièce. C'est une pièce que l'on peut utiliser. Les gazons anglais, on piétine, on s'allonge dessus. On y vient le week-end en famille. Donc, c'est un décor pour la pièce principale, le salon, on voit le jardin, mais c'est une pièce dont on profite avec aisance et sans aucune limite. C'est un lieu de collection, un lieu de fierté. En Angleterre, à Londres, toutes ces propriétés merveilleuses, le jardin n'est pas comme chez nous en France, caché par une haie de tuyères. On voit le jardin, bien évidemment. Il y a très peu de clôture. On en profite. Non, il y a une philosophie anglaise. Et d'ailleurs, ma petite fierté, pardonnez-moi, mais quand la reine d'Angleterre fut invitée à Paris en voyage d'État par François Hollande, elle n'a pas seulement eu le marché aux fleurs baptisé à son nom, mais elle a souhaité me rencontrer pour que je parle jardin avec elle. Pardonnez,
quel honneur, Et comment injecter un peu de jardin anglais dans son jardin français, justement? Quel petit conseil vous pourriez nous donner?
On faisait preuve de fantaisie, tout simplement, et c'est bien l'esprit anglais. Quand vous achetez, si je vous offrais demain des bulbes, par exemple de tulipes, vous seriez tenté de les planter sur une pelouse de manière symétrique ou alignée. L'anglais, lui, il prend des brassées, il les jette en l'air et il les plante là où elles sont tombées.
On peut aussi aller sur la BBC Radio 4. L'émission la plus longue qui a commencé en 47 s'appelle Gardener's Question Time. C'est une fois par semaine, c'est un panel de jardiniers professionnels auxquels les auditeurs posent des questions. Ça dure depuis 1947.
Je retiens le conseil d'un marathon, faire preuve de fantaisie. Daniel Jerkens, on termine avec vous, avec de la déco. Si on veut donner à son intérieur un côté cottage anglais, alors évidemment c'est toujours une image fantasmée de ce qu'est l'Angleterre, la campagne anglaise, etc. On est parfois loin de la réalité, mais si on veut donner cet esprit-là à son intérieur, quels sont les fondamentaux ?
Prenez des tissus de toutes les couleurs, de tous les motifs, jetez-les en l'air et regardez où ils tombent. Je plaisante, mais il y a un petit peu de ça. N'ayez pas peur de mettre des coussins, n'ayez pas peur de mettre beaucoup de tissus, n'ayez pas peur de papier peint, n'ayez pas peur d'avoir un canapé fleuri et un papier peint à ramage, rajoutez un tapis léopard éventuellement, mettez des meubles en rotin, disposez des tas de tableaux, pas forcément symétriques, plutôt en bouquet, eux aussi, sur les murs. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre?
Des matériaux bruts.
Pas forcément, non, pas forcément. Des miroirs, des petites curiosités, des tas d'objets, des cadres, beaucoup de cadres avec des photos. L'esprit anglais en décoration, c'est ne pas avoir peur de s'éloigner de ce qu'on peut penser être le bon goût au départ et refuser la symétrie.
Guillemette Audicino.
Je suis tout à fait d'accord. En fait, le chic anglais ou la très belle décoration intérieure anglaise, c'est vous imaginez du too much, du kitsch, et le niveau d'au-dessus, c'est hyper chic.
Voilà.
Donc en fait, il faut vraiment aller dans l'excès pour que ça ne soit pas vulgaire, mais si vous dépassez ce niveau-là, alors là, vous êtes dans le luxe total à l'anglaise.
Et alors, dernier petit mot pour terminer, je voudrais repasser sur la cuisine. Il y a un livre extraordinaire qui vient de sortir qui s'appelle Mrs. Beaton, la femme qui bouleversa les cuisines anglaises. C'est en fait une bible publiée aux éditions de l'Épure, qui rassemble, on est à pas loin de 1500 recettes, écrites en 1861. Et là-dedans, on trouve absolument tout, le scotch egg, comme comment faire pousser les cheveux plus vite. C'était la bible des dames anglaises.
Merci à tous, merci John Henley, Nicolas Sowells, Guillemette Audicino, Sarah Le Sage, Daniel Jerkens et Alain Baraton. N'oubliez pas d'écouter tout à l'heure Fabienne Santès en direct des rues de Londres dans le 18-20 à l'occasion du jubilé d'Elisabeth II. Demain, dans Grand Bien vous fasse loisir, on s'intéresse à l'art de recevoir avec Héloïse Brion, alias Miss Maggie's Kitchen, et Perla Savran-Chabert.